RFI, 7h à Paris, 8h à Bukavu, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Des centaines de sites du gouvernement américain inaccessibles. Donald Trump et Elon Musk poursuivent leurs coupes budgétaires.
Et coupent les vivres notamment de USAID, l'agence américaine pour le développement international, va fermer selon Elon Musk. Agence au budget colossal, chargée de distribuer l'aide américaine dans près de 120 pays. Nous y revenons dès le début de ce journal.
Nous reviendrons aussi sur la visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis.
Le Premier ministre israélien rencontrera Donald Trump tout à l'heure. Netanyahou particulièrement sous pression, vous l'entendrez. Près de 900 morts dans les combats selon l'ONU. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo provoque émoi et réaction dans le monde entier. Certains fans de foot ne supportent plus de voir leur club de cœur arborer Visit Rwanda sur leur maillot. Enfin, on connaît l'identité de la présidente du prochain jury du Festival de Cannes. Ça vient de tomber, ce sera l'actrice Juliette Binoche. Portrait en fin de journal.
Les employés de l'USAID ont reçu un drôle de mail les invitant à ne pas se rendre au bureau.
Cela concerne plus de 1000 personnes travaillant pour l'agence américaine USAID, premier pourvoyeur d'aide humanitaire dans le monde, qui gère des milliards de dollars et qui a développé des programmes d'aide dans près de 120 pays, mais qui pourrait donc fermer ses portes. USAID, victime de Donald Trump et d'un certain Elon Musk. Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis, l'agence américaine pour le développement international ciblée par le DOGE. Le nouveau département de l'efficacité gouvernementale confié à l'homme le plus riche du monde.
Oui, c'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'Elon Musk sonne la charge contre l'USAID. Ce n'est pas seulement que le ver est dans le fruit, dit-il sur son réseau social X. Il n'y a que des vers, c'est sans espoir, il faut se débarrasser de l'ensemble. Donald Trump est d'accord, ajoute l'homme le plus riche du monde. Je l'ai interrogé en détail, dit-il, et il a accepté que nous fermions. Quelques heures plus tard, le site web de l'USAID disparaît et les 1200 employés de son siège à Washington reçoivent un mail les appelant à ne pas se rendre au bureau dont les portes sont en train d'être scellées au ruban jaune par la police. Dans une atmosphère chaotique à la Maison-Blanche, la nouvelle porte-parole Caroline Leavitt justifie cette fermeture en dénonçant le gaspillage de l'argent du contribuable dans des dépenses insensées, dit-elle. 1,5 million de dollars pour promouvoir la diversité au travail en Serbie, 47 000 pour un opéra transgenre en Colombie. Des experts mettent en cause la légalité de la fermeture de l'USAID fondée en 1961 sous le président Kennedy. Les démocrates s'insurgent mais semblent bien impuissants devant ce coup de force d'Elon Musk.
Et David, cette fermeture brutale de USAID pose une nouvelle fois la question de l'absence de contre-pouvoir face à Elon Musk au sein de cette nouvelle administration Trump.
Oui, si Musk ferme l'USAID aujourd'hui, vous pouvez être sûr, s'inquiète Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat, qu'il s'attaquera à une autre cible et qui sait ce que ce sera, peut-être la poste ou les impôts. Or, personne n'a élu Elon Musk, s'insurge de son côté la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, d'autant que l'homme le plus riche de la planète a pris le contrôle de nombreux leviers administratifs très sensibles aux États-Unis, comme le système de paiement du Trésor américain. Or, le patron de Tesla et SpaceX ne répond qu'à la supervision du président américain. Et encore, beaucoup se demandent si Musk n'a pas tout simplement pris l'ascendant sur lui, au point que Donald Trump se voit contraint de confirmer qu'il reste bien le patron. Musk, dit Trump, ne peut pas et ne pourra pas faire quoi que ce soit sans mon accord. S'il le faisait, je vous le ferai savoir très vite.
Explication signée David Thompson, correspondant de RFI aux États-Unis.
Les États-Unis qui temporisent face à leurs voisins.
Et qui ont trouvé un arrangement, au moins pour un temps. Donald Trump qui a suspendu pour un mois son projet d'imposition des droits de douane contre ses voisins canadiens et mexicains, en échange d'un renforcement de la lutte contre le trafic de fentanyl à la frontière de ces deux pays. Et puis concernant la Chine, elle aussi dans le viseur américain, on apprend ce matin des mesures de rétorsion chinoise sur le pétrole et le charbon américain. Mesure en vigueur à partir du 10 février prochain.
Donald Trump qui doit rencontrer Benjamin Netanyahou tout à l'heure.
Le Premier ministre israélien est en visite à Washington. Il doit s'entretenir avec le président américain. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État étranger depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier. Au menu des discussions, la reprise des négociations sur la deuxième phase de la trêve entre Israël et le Hamas. Il s'agit de mettre un terme définitif à la guerre et de libérer tous les otages restants à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Une phase qui s'annonce délicate car les familles d'otages mettent la pression sur Benjamin Netanyahou et ont manifesté sous les fenêtres de son bureau de Jérusalem hier soir. Reportage de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Nicolas Benita.
La guerre française. Le nom de chaque otage est scandé par des dizaines de manifestants qui forment une chaîne humaine devant les bureaux du Premier ministre israélien. Reut Nimrodi brandit le portrait de son fils, Tamir, un soldat de 18 ans enlevé le 7 octobre et dont elle n'a aucune nouvelle.
Mon fils doit faire partie de la seconde phase de libération, mais nous sommes terrifiés parce que nous ne savons pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas du tout s'il est toujours vivant ou non.
Il y a urgence à poursuivre les négociations, selon Shai, qui a perdu une cousine, morte en captivité à Gaza.
C'est une question de volonté. Cet accord doit aller jusqu'à son terme, jusqu'à ce que tous les otages soient libérés. Je sais que c'est possible et je sais aussi que ça peut se terminer tragiquement si ce n'est pas fait à temps.
Parmi les manifestants, Yael exprime sa colère contre Benjamin Netanyahou, qui a mis des mois à conclure un accord avec le Hamas. Elle compte sur le président américain pour que les négociations continuent.
Trump a dit qu'il voulait finir cette guerre, et j'espère que Netanyahou ne lui racontera pas d'histoires et des mensonges comme d'habitude. Il doit lui dire qu'il faut ramener tous les otages et mettre fin à cette guerre stupide.
Muriel Paradon, Nicolas Benita, Jérusalem, RFI.
RFI 7h06 à Paris, 8h06 à Goma. Le conflit dans l'est de la RDC s'invite sur les manches des maillots de foot.
Ah oui, un conflit qui a fait au moins 900 morts selon le dernier bilan de l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Principalement lors de combats autour de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, en grande partie occupée par le M23, soutenu par le Rwanda. Et le soutien au Rwanda dans ce contexte de grands clubs de foot passe mal. Arsenal, le Bayern Munich ou encore le PSG qui arbore Visit Rwanda sur les manches de leur maillot. Une promotion que le club parisien assure depuis 2019. Mais de plus en plus de supporters s'y opposent désormais et une pétition a même été lancée, Cédric Delivera.
Jordan Madjande est d'origine congolaise. Il est aussi supporter du PSG depuis toujours. Mais il a désormais du mal à voir les mots Visit Rwanda sur les maillots parisiens. Aujourd'hui, il ne comprend plus son club de cœur.
En tant que supporter, je ne peux pas cautionner ça. C'est aux antipodes des valeurs que mon club défend matin, midi, soir. Nous, on est supporters, hein. Mais le PSG ne puisse pas dire qu'il n'est pas au courant. Aujourd'hui, il y a un conflit qui se passe. C'est pas possible et aujourd'hui, il faut se positionner et il faut des partenariats plus éthiques pour les clubs de foot.
Il y a une semaine, le trentenaire a donc décidé de lancer une pétition pour contraindre le PSG à mettre fin à ce partenariat lucratif qui lui rapporte 15 millions d'euros annuels. Le contrat actuel est censé s'arrêter cette année, mais il espère qu'il ne sera pas renouvelé.
C'était le moment de taper pour que ce partenariat s'arrête. Je pensais pas que ça allait monter aussi vite. On est en route pour les 50 000. 50 000, c'est un chiffre aussi significatif. C'est la capacité d'accueil du Parc des Princes. Donc, ça permettrait aussi de dire, ben voilà, on remplit le parc avec des personnes qui sont contre ce contrat, ce partenariat.
Contacté, le PSG n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Le club a par ailleurs reçu dimanche une lettre de Thérèse Kayikwamba-Wagner. La ministre des Affaires étrangères de RDC lui demande de mettre fin à ce partenariat taché de sang, selon ses mots. D'autres clubs européens comme Arsenal et le Bayern Munich sont concernés.
Et concernant le conflit dans l'est de la RDC, le Kenya annonce un sommet conjoint de l'EAC et de la SADC, un sommet à suivre vendredi et samedi en Tanzanie.
La Corée du Sud pourrait augmenter la durée de travail hebdomadaire.
Pour l'instant, la semaine de 52 heures est de vigueur dans le pays, mais peut-être plus pour très longtemps. Des voix s'élèvent pour allonger la durée de travail et pour relancer la productivité. Une mesure discutée, mais qui ne fait pas l'unanimité. Elle pourrait épuiser encore plus une population active déjà stressée et surmenée. Correspondance à Séoul de Salio Foretti.
52 heures de travail par semaine et pourquoi pas plus. Le gouvernement sud-coréen et les députés du parti présidentiel ont appelé à voter avant la fin du mois de février ce projet de loi qui vise à permettre aux entreprises du secteur des semi-conducteurs de dépasser la limite légale du temps de travail. Face à des résultats en baisse pour cette année 2024, les cadres de Samsung, dont le cœur de l'activité est la production de ces semi-conducteurs, ont appelé le gouvernement à conduire cette réforme. À la clé, selon l'entreprise, un gain de productivité pour rester compétitif face aux rivaux chinois et taïwanais. Une réforme soutenue par le patronat et le gouvernement, mais décriée par les syndicats et les employés même de Samsung. Pour ces derniers, les mauvais résultats de l'entreprise ne sont pas à imputer au temps de travail, mais à la mauvaise gestion de la direction. SK Hynix, autre poids lourd coréen du secteur, a en effet enregistré un chiffre d'affaires record sur la même année, tout en respectant la durée légale de travail. C'est Le Fioretti, Séoul, RFI.
En France, ce chiffre terrible, celui du nombre de personnes sans domicile fixe.
Ils étaient 350 000 en 2024, 20 000 de plus que l'année précédente. Un triste record dont fait état la Fondation pour le logement des personnes défavorisées, anciennement Fondation Abbé Pierre, dans son rapport annuel sur le mal-logement.
La France où le marché de cigarettes de contrebande a explosé l'an passé.
Un marché parallèle qui représente désormais près de 40% de la consommation totale. Des centaines de buralistes étaient appelés à manifester un peu partout en France, notamment devant l'Assemblée nationale à Paris, où s'est rendu Aram Beng.
Stop au trafic de tabac, buralistes, mobilisons-nous, l'État à nos côtés.
Les buralistes alertent les autorités contre ces fléaux qui, selon eux, impactent toute la société. Karine Giratel, buraliste à Fontainebleau, en région parisienne.
Vente au pied des écoles, vente aux mineurs. La politique de santé publique que mène la France depuis maintenant 20 ans est complètement bafouée par rapport à ce marché parallèle. Donc ce n'est plus anecdotique. On ne peut plus fermer les yeux et penser que l'augmentation du tabac permet une chute de la consommation de tabac en France.
Les fumeurs ne fument pas moins. Avec la hausse du prix du tabac, ils s'approvisionnent autrement. Amio Ahmed est buraliste à Paris 18e et délégué pour la Fédération des buralistes d'Île-de-France.
J'ai vu le trafic et le marché illégal de cigarettes augmenter en même temps que le prix du paquet. On a un paquet chez le buraliste à 13 euros, il se vend à 5-7 euros dans la rue. Donc en fait, on pousse juste nos concitoyens à aller se fournir sur un marché illégal avec des nuisances sonores pour les riverains et des mafias qui squattent les trottoirs et qui troublent l'ordre public.
En France, l'achat de tabac de contrebande est interdit et passible d'une amende de 135 euros.
Un reportage signé Aram Beng.
RFI.
Cette petite musique, vous la connaissez, c'est celle du Festival de Cannes. On déroule le tapis rouge pour terminer à Juliette Binoche.
L'actrice grande figure du cinéma français qui aura l'honneur de succéder à Greta Gerwig. Edmond Sadaka, on l'a appris il y a 2 heures, Juliette Binoche qui présidera le jury du 78e Festival de Cannes. Une belle récompense pour une immense carrière.
Juliette Binoche, c'est un caractère bien trempé et un engagement entier au service du cinéma. Et ceci depuis son premier grand rôle dans Rendez-vous d'André Téchiné au milieu des années 80. Depuis, l'actrice a réussi un parcours sans faute, parvenant à concilier film d'auteur et succès populaire. Juliette Binoche, c'est aussi l'une des rares françaises reconnues par Hollywood, qui lui a décerné en 1997 un Oscar pour Le Patient anglais d'Anthony Minghella, une récompense qui lui a permis d'entamer une carrière à l'international. Elle est aussi l'une des seules comédiennes à avoir remporté les distinctions des 3 plus grands festivals de cinéma européens, Venise, Berlin et Cannes. Actrice et citoyenne engagée, on se souvient notamment de sa protestation à Cannes en 2010 contre l'emprisonnement du cinéaste iranien Jafar Panahi, dont elle avait brandi le nom sur scène. La nouvelle présidente du jury de Cannes avait révélé il y a quelques mois avoir été victime d'agressions sexuelles. Au début de sa carrière, elle se place de la sorte dans le sillage essentiel des prises de parole autour du mouvement MeToo.
Edmond Sadeka, le Festival de Cannes qui se tiendra du 13 au 24 mai prochain. RFI sera évidemment, moi je vous laisse avec l'actrice principale de la matinale de RFI, tapis rouge pour Andréane Mellard pour la suite de RFI Matin.
Et tapis rouge pour Antoine Grenier aussi pour le sport qui est avec nous dans une poignée de secondes. Merci Martin Guèze, le sport c'est juste avant notre rendez-vous avec aujourd'hui l'économie. On parle guerre commerciale ce matin et puis notre grand invité international dans un instant, Christophe Gomard, premier vice-président de la Commission de la Sécurité et de la Défense du Parlement européen. Il répond à Arnaud Pontus. Et je vous l'avais promis, il est là, Antoine Grenier, pour nous parler foot et début des 8e de finale de la Coupe de France ce mardi.
Avec le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, en déplacement sur la pelouse du Mans, pensionnaire de National, la 3e division. Les Parisiens, très largement en tête du classement de Ligue 1, qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions, sont dans une forme étincelante. Ousmane Dembélé, notamment, enchaîne les performances de très haut niveau. Meilleur buteur européen en 2025, auteur de 2 triplés de suite face à Stuttgart puis Brest le week-end dernier. L'ailier parisien s'affirme clairement et confirme qu'il est un joueur pas comme les autres pour son entraîneur Luis Enrique.
Ousmane Dembélé a toujours été un joueur différent. Quel que soit l'endroit où Ousmane joue, il restera à part. C'est un joueur capable d'éliminer et de dribbler 2 ou 3 adversaires, de délivrer des passes décisives et de marquer des buts importants, même si ce n'est pas aussi fort qu'actuellement. Notre objectif avec Ousmane est toujours le même, je le répète. Tout dépend de l'endroit où se trouvent les espaces. C'est parfois à l'intérieur en tant que numéro 9, parfois plus à l'extérieur au poste d'ailier. C'est ça l'avantage d'être un joueur polyvalent comme lui.
Le Mans PSG, coup d'envoi, 20h10 temps universel.
Trois matchs au programme en tout dans ces huitièmes de finale.
À 18h TU, trois pensionnaires de Ligue 2 accueillent Brest et Lille affronte Dunkerque dans un duel nordiste entre deux équipes ambitieuses. Les Dunkerquois jouent la montée en Ligue 1 cette saison, tandis que les Lillois préparent eux leur huitième de finale de Ligue des Champions. Un duel toujours intéressant à jouer donc pour un LOSC qui rêve de remporter la Coupe de France, même si la route est encore longue, estime l'entraîneur lillois Bruno Genesio.
C'est une compétition dans laquelle vous dépendez aussi du tirage, de plein de choses. Hein. Il faut parfois croiser certaines équipes le plus tard possible ou le plus tôt possible, je ne sais pas comment le dire. Mais voilà, donc nous, ce qui est important, c'est déjà de se préparer sérieusement, d'être à 100% comme on l'a été contre Saint-Etienne, comme on l'a été contre Feyenoord. On a vu qu'il n'y a aucun match qui est simple à gagner. Mais évidemment qu'on a envie d'aller au bout de cette compétition parce qu'on est des compétiteurs. Maintenant, vous dire oui, on a envie de la gagner, c'est facile. Déjà, il y a Dunkerque à éliminer pour pouvoir ambitionner, d'aller au bout.
Lille-Dunkerque, coup d'envoi, 18h, temps universel.
Ailleurs en Europe, Chelsea et la Lazio passent la quatrième.
Les Blues, vainqueurs de West Ham 2-1 sur des buts de Neto et Wan-Bissaka contre son camp, de quoi leur permettre de remonter à la quatrième place de Première Ligue après 24 journées. La Lazio, elle, a profité de son succès 2-1 sur Cagliari pour dépasser la Juventus et prendre, là aussi, la quatrième place de Serie A.
On termine avec la NBA. Oklahoma conserve son assise sur la conférence West.
OKC s'est imposé 125-96 sur Milwaukee grâce aux 34 points, 3 rebonds et 6 passes de l'arrière canadien chez Gilgeous Alexander. De quoi permettre aux Thunder de confirmer sa place de leader à l'ouest devant Memphis qui a dominé les Spurs de Victor Wembanyama 128-109. À l'est, les Knicks de New York, 3e de la conférence, ont dominé les Rockets de Houston 124-118.
Antoine Grenier. Bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Andréane.
On peut le voir depuis quelques heures, la Chine réplique aux menaces de droits de douane brandies par Donald Trump. Le président américain s'est dit hier très satisfait de ses discussions hier avec le Canada et le Mexique. Et pour cause, un accord trouvé avec Ottawa et Mexico. Le projet de taxe douanière pour ces pays a été suspendu pour au moins un mois. On en parle dans Aujourd'hui l'économie. Une pause, Stéphane, dans l'intérêt de tout le monde.
Oui, trois pays liés dans le cadre d'un accord de libre-échange. Le Mexique est ultra dépendant des États-Unis, tout comme le Canada, hein, près de 80% de leurs exportations y sont destinées, le Mexique et le Canada, qui sont d'ailleurs devenus les deux premiers partenaires commerciaux des États-Unis, et cela devant la Chine.
Et donc, pourquoi Donald Trump s'est résolu à ne pas appliquer les fameux droits de douane dont il parle depuis des mois?
Alors là, il faut le regarder du côté américain, car mine de rien, ces mesures auraient pu impliquer de nombreuses conséquences dans le quotidien du consommateur américain. Donald Trump lui-même, ce week-end, affirme que l'application de ces taxes douanières aurait engendré quelques perturbations économiques, mais que, je cite, ça en valait la peine. Un tel scénario aurait provoqué une hausse des prix dans toute la région et des suppressions d'emplois. Les prix des produits importés et du Canada et du Mexique auraient naturellement augmenté. Aujourd'hui donc, le prix d'un kilo de tomates, de concombres ou d'avocat du Mexique ne va pas exploser. Sur ce point-là, les Américains échappent donc à une inflation un peu plus forte. D'après le groupe ING, les mesures du président américain se seraient traduites par une perte de 3 342 $ pour une famille de 4 personnes sur un an. Et puis, Andréane, il faut aussi préciser que le Mexique et le Canada avaient de leur côté pris des mesures de rétorsion à l'encontre des États-Unis.
Donald Trump a donc bluffé pour parvenir à ses fins.
C'est un peu ça. En brandissant ses menaces de hausse des tarifs douaniers, il semblait être en position de force. En les suspendant, il a obtenu en contrepartie un déploiement de 10 000 soldats mexicains à la frontière avec les États-Unis pour enrayer le trafic de fentanyl et limiter le passage des migrants. Le Canada, lui, s'est engagé à lutter contre cet opioïde meurtrier.
Donc si on comprend bien, Stéphane, le grand gagnant, c'est Donald Trump, en tout cas via le narratif qu'il propose.
Et pourtant, sa marge de manœuvre était très étroite, on le disait, s'il avait appliqué ces mesures. Il y aurait eu une hausse des prix aux États-Unis. Juste un exemple, produire une voiture aurait coûté plus cher car beaucoup de pièces sont fabriquées au Canada ou au Mexique. Et donc à la fin, la voiture aurait été vendue plus cher. Encore faut-il qu'elle soit achetée. Et surtout, Wall Street a tremblé. Hier, la bourse de New York a fini dans le rouge tant les investisseurs étaient inquiets. Il s'agit donc d'un sursis sur ces taxes pour les produits canadiens et mexicains, car si aucun ne semble pour le moment gagnant, personne n'est finalement perdant. Reste maintenant à savoir si ce sursis va se poursuivre pour devenir la norme ou si Donald Trump ira au bout de sa politique d'intimidation qui pourrait, Andréane, connaître ses limites.
Stéphane Jeunesse, en direct avec nous pour aujourd'hui. L'économie, merci Stéphane. RFI, 7h19 à Paris. Notre grand invité international ce matin face à Arnaud Pontus dans nos studios, le général Christophe Gomard, eurodéputé et premier vice-président de la Commission de la Sécurité et de la Défense du Parlement européen.
Bonjour Christophe Gomard.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI.
Merci.
Les chefs d'État et de gouvernement des 27 se sont vus hier à Bruxelles pour parler défense européenne. Le secrétaire général de l'OTAN et le premier ministre britannique étaient également conviés. Est-ce que ça montre la force des Européens ou une petite panique face au changement géopolitique?
Un peu des deux sans doute.
Oui.
C'est une première quand même que les chefs d'État se réunissent sur le sujet unique de la défense avec les Britanniques. Pour moi, la défense de l'Europe est impossible sans les Britanniques, mais elle est impossible aussi avec les Britanniques. Mais c'est assez une première.
Impossible avec et impossible sans.
Et impossible sans. C'est
bon, alors comment fait-on, général?
C'est tout le problème. Tout le problème, selon moi. Je ne crois pas... Enfin, il n'en est rien ressorti, mais c'est quand même une première. C'est-à-dire que ce genre de réunion est intéressant dans la mesure où les gens se parlent. Et déjà, le fait de se parler est bien. Derrière, on voit bien toute la difficulté de la défense de l'Europe, qui reste une des priorités, avec les compétitivités. Ce sont les deux axes prioritaires décidés par Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission, pour avancer pour le mandat de 5 ans de l'actuel Parlement. Sur quoi ça va déboucher, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a trois illusions. Il y a une illusion, si vous voulez, industrielle, il y a une illusion institutionnelle et une illusion stratégique. C'est-à-dire que le commissaire à la Défense, Andrius Kubilius, donc ancien Premier ministre lituanien, qui est aujourd'hui commissaire chargé de la Défense et de l'Espace, en réalité, c'est pas l'Europe n'est pas compétente en matière de défense. L'Europe est compétente en matière d'industrie de défense. Mais derrière ce mot commissaire à la défense, on veut nous faire croire que, en fait, l'Europe serait compétente en matière de défense. Elle ne l'est pas.
Ce qui n'est pas le cas. Ce sont les nations qui déterminent leur politique.
Absolument. Et il faut que ça demeure. Néanmoins, on peut avoir une politique de défense commune. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, quelle est la vision stratégique de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe doit faire face aux différentes menaces du monde actuel? Que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis d'ailleurs. Parce que les États-Unis qui veulent prendre de force ou de force le Groenland, comment l'Europe réagit-elle? L'Europe n'a pas vraiment réagi. Il y a eu quelques sorties, quelques explications, quelques phrases, mais c'est...
Oui, réponse
c'est
faible. Tout, hein,
réponse très faible. Oui. Donc on voit bien derrière que l'Europe est assez divisée, et d'ailleurs c'est l'objectif d'un Donald Trump, c'est de diviser l'Europe. C'est de faire en sorte que l'Europe soit faible et que ça reste une marketplace pour les États-Unis d'Amérique.
Oui. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, fait clairement savoir que le parapluie de protection américain n'est pas éternel. Est-ce que l'Europe peut se défendre sans l'Amérique, ou est-ce que c'est l'une des illusions que vous évoquiez il y a un instant?
Alors, l'Europe, au sein de l'Europe, quels sont les pays qui sont capables, qui ont une armée capable de, j'allais dire, d'agir de manière opérationnelle? Il y a la France, il y a sans doute la Pologne, et d'autres petits pays, mais qui n'ont pas une armée vraiment opérationnelle, à l'instar de l'armée française, qui dispose de tous les moyens, même si c'est en nombre insuffisant, elle dispose quand même d'une capacité, et on le voit bien aujourd'hui avec notre porte-avions, qui est très loin vers l'Indonésie, on voit bien derrière cette capacité de l'armée française. Au-delà de ça, je pense qu'on n'a pas suffisamment de munitions, les budgets de la défense sont à peine à 2% en moyenne du PIB.
Parlons de ça justement. Est-ce que les pays européens dépensent suffisamment pour leur défense? Je vous entends dire non.
Non, non, ils ne dépensent pas suffisamment. Quand j'entends un Mark Rutte, qui est le nouveau secrétaire général de l'OTAN, qui dit qu'il faut dépenser au moins 3% du PIB. Lui, comme Premier ministre des Pays-Bas, a réduit le budget de défense, qui était le budget des Pays-Bas, était de 1,1% du PIB. Donc ça fait doucement sourire. Oui. Mais je pense qu'il a raison néanmoins de le souligner. Il est absolument impératif que l'Europe dépense plus. Savez-vous que l'Europe dépense, quand on additionne les pays, les 27 budgets de la défense, c'est 320 milliards d'euros. Les Américains en dépensent 880 milliards. Donc il y a un gap de 500 milliards d'euros ou de dollars, parce que c'est à peu près l'équivalence aujourd'hui.
Oui.
Mais donc oui.
Donc c'est nettement insuffisant.
C'est nettement insuffisant.
Mais 3% du PIB, c'est colossal.
Bah oui, surtout quand on a un pays comme la France qui est endetté comme on
le sait. Exactement.
Comment fait-on? Je pense que il faut faire des économies, et c'est certain. Emprunter comme certains le voudraient pour l'Europe, ça me paraît une mauvaise idée. Il y a des pays qui sont contre, dont l'Allemagne, contre un emprunt. Néanmoins, il va falloir en effet que les pays dépensent beaucoup plus. Dépenser plus, ça veut dire plus de contrats, pour nos industries de défense, ça veut dire donc qu'elles tournent plus. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on dépense plus dans la défense, on fait travailler plus aux industriels, on fait plus travailler l'emploi et on enrichit.
Un cercle vertueux, vous voulez dire, Christophe. Oui, parce que justement, est-ce que ça aurait un sens d'augmenter les dépenses militaires de chaque pays européen si c'est pour, au final, comme nous le faisons beaucoup aujourd'hui, acheter des armes, des munitions, des équipements, des technologies aux États-Unis ou ailleurs?
Savez-vous que depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays européens ont acheté 80% de leur armement en dehors de l'Europe, 67% aux États-Unis, 13% en Corée du Sud.
Donc on fait faire de bonnes affaires aux Américains. Absolument. En dépensant plus
et la position
en
française
matière militaire.
Exactement. La position française est assez claire dessus. C'est-à-dire que l'argent européen doit être dépensé dans les industries de défense européennes. Il y a tous les types d'industries de défense en Europe. On est parfaitement en mesure de répondre aux besoins des armées européennes. La Pologne, qui a refourgué ses anciens matériels datant de l'ère soviétique à l'Ukraine, a acheté uniquement du matériel sud-coréen et américain. Mais elle aurait très bien pu acheter européen. On critique les industriels européens en disant ils ne vont pas assez vite. Mais parce que quand on n'a pas de commandes, on n'a pas beaucoup de lignes de production. Mmh. Plus vous avez de commandes, plus vous augmentez votre ligne de production et plus vous êtes capable de fournir rapidement, de répondre aux besoins des gens qui vous achètent.
Oui, Christophe Gomard, vous nous dites que s'il y avait les commandes, s'il y avait les budgets, s'il y avait les dépenses, l'industrie, les industries d'armement ou de technologie ou de défense européenne seraient en mesure de produire ce qui est nécessaire?
Oui. Quand vous regardez, par exemple, un Dassault, aujourd'hui, il a un carnet de commandes de Rafale, je crois, sur 10 ans. Quand vous voyez des industries comme KNDS ou Exnexter, ils ont augmenté leur cadence de production de canons César. Ils augmentent leur cadence de production d'obus. Donc, on voit bien derrière que dès lors qu'il y a de la commande, eh bien, les industriels répondent aux besoins, développent leur ligne de production, engage ou recrute des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers pour répondre à ces besoins.
Donc c'est faisable.
De mon point de vue, c'est faisable.
C'est faisable. On parle de la pression exercée par Trump sur les Européens. Il menace aussi l'union de guerre commerciale, hein, ça n'échappe à personne, avec des tarifs douaniers. On n'oublie pas, et vous le disiez au début de cet entretien, sa volonté de faire main basse sur le Groenland. Est-ce qu'on peut dire dans ces conditions que les États-Unis sont encore vraiment un allié de l'Europe?
C'est une bonne question. Pour moi, ancien militaire ayant travaillé de près avec les Américains, ça reste un véritable allié militaire. Néanmoins, de mon point de vue, nous sommes en guerre économique avec eux. Vu les contraintes, les conditions à travers les normes américaines que l'on doit respecter, sinon ils nous attaquent. On se souvient d'un certain nombre de groupes français qui ont dû payer des millions de dollars aux États-Unis parce qu'ils s'étaient trompés, ils avaient fait des erreurs dans les normes, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut imposer les mêmes normes que les Américains nous imposent de façon à arriver à l'équilibre. Mais de mon point de vue, Donald Trump voit l'Europe comme, ce que je disais tout à l'heure, une marketplace dans laquelle, une espèce de centrale d'achat dans laquelle, effectivement, les Européens sont obligés d'acheter aux États-Unis, sinon les États-Unis ne les défendront pas. Et c'est tout le problème de certains noms de pays européens qui se disent, notre seule défense, elle est américaine. Mmh. Or, je pense qu'il faut dire, notre seule défense, elle est européenne.
Elle est européenne. À propos de défense encore, la chef de la diplomatie européenne assure que l'Europe est prête à prendre le relais des États-Unis pour soutenir militairement l'Ukraine. Est-ce que ça vous semble crédible, à vous, le général?
Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. On est incapable de fournir aux Ukrainiens les obus dont ils auraient besoin, incapable de fournir les chars dont ils auraient besoin.
Donc c'est une illusion, ça.
On voit bien qu'aujourd'hui c'est une illusion, oui. Mais c'est là où j'appelle au réveil de l'Europe, j'appelle au réveil de la défense de l'Europe. L'élection de Trump 1 était un premier coup de semonce, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est un véritable deuxième coup de semonce, et l'élection de Donald Trump 2 en est un autre. Mais on aurait dû se réveiller avant. Alors il est toujours temps de se réveiller.
Il est temps de s'y mettre.
Il est temps de s'y mettre, oui.
Christophe Gomard, on va finir en quelques secondes. Je voudrais dire un mot de ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo avec le M23, soutenu par le Rwanda qui a pris le contrôle de Goma. Est-ce que l'Union européenne doit sanctionner aujourd'hui le Rwanda?
L'Union européenne doit prendre position, c'est certain, et dire effectivement à Paul Kagame qu'il faut qu'il arrête, parce qu'on voit bien qu'il va se servir au Congo, et je pense qu'il est nécessaire de prendre des sanctions contre lui, sans aucun doute, ses proches et contre les dirigeants du Rwanda, pour bien leur faire comprendre que ce qu'ils font n'est pas normal au regard des relations internationales.
Donc des sanctions ciblées, ce serait l'hypothèse que vous pousseriez.
Je milite parce que des sanctions, sinon c'est la population rwandaise qui est visée. Or, là-dedans, c'est pas une décision de la population rwandaise, c'est une décision de Paul Kagame et de son gouvernement. Donc oui, il faut cibler les sanctions.
Merci à vous, Christophe Gomard, d'être venu ce matin sur RFI.
Le général Christophe Gomard, eurodéputé, premier vice-président de la Commission de la Sécurité et de la Défense du Parlement européen, grand invité international d'RFI Entretien avec Arnaud Pontus, à retrouver sur notre site RFI.fr.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Demain,
la septicémie, une infection à traiter en urgence absolue.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
plusieurs pays d'Afrique limitent l'importation de poulets. Qu'en pensez-vous ? Quel poulet consommez-vous ?
Demain,
l'éducation sexuelle dans les écoles du monde. Quels enjeux culturels et politiques ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.